Le 11 mars dernier, un ancien polytechnicien devenu ingénieur en informatique annonce sur son compte Facebook qu'il se retrouve visé par une plainte pour port illégal d'uniforme au cours d'une manifestation politique ou syndicale. On lui reproche d'avoir pris part à la protestation des Gilets jaunes le 1er décembre dernier à Paris dans l'uniforme de la prestigieuse école. Comment le pouvoir a-t-il pu en arriver là, à ce degré de mesquinerie, de haine même vis-à-vis d'un mouvement en faveur de la justice sociale et fiscale? C'est ce que j'ai eu envie de tenter de comprendre aujourd'hui, de même que j'ai eu envie de saluer votre geste, Régis Portalès, bonjour.
Bonjour, merci à vous.
Et merci d'être avec nous à Montreuil aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de descendre dans la rue le 1er décembre et de fraterniser avec ce que notre président appelle la foule haineuse?
Tout simplement parce que j'étais d'accord avec eux. Je me demande comment on peut ne pas être d'accord avec un mouvement qui demande de la justice, comme vous l'avez dit, et de la démocratie. D'autant plus quand ce mouvement vient de la province, essentiellement à l'époque, ce que j'avais jamais vu, qu'il y a des femmes dedans, qu'il y a toutes sortes de catégories sociales, beaucoup de travailleurs, et que ce mouvement s'est lancé sans appel politique ni syndical. C'était vraiment un mouvement spontané qui demandait de la justice sociale et fiscale, et très rapidement de la démocratie avec le RIC qui a émergé, etc. Moi, ce que j'ai trouvé important, c'était de dire que le demander d'avoir une compensation honnête pour son travail ou simplement le droit de vivre dignement, ce n'est pas une revendication farfelue, c'est un droit, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit, dans les articles 23 et 25. Et la justice fiscale, c'est également inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Critiquer ça me paraît quand même farfelu, pour le coup. Ensuite, moi, à titre personnel, j'ai une histoire politique, on va dire, assez complexe. J'étais à droite avant. Et puis j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, notamment de l'inégalité dans la répartition des richesses, de la fraude fiscale, de la dette écologique, tout un tas de choses. Donc je me suis réorienté beaucoup plus à gauche. Quand on voit certaines nouvelles depuis des années, on a vraiment envie d'aller manifester. Donc, je pense notamment au chiffre de dividendes qui a été donné l'an dernier, record avec 57 milliards. Et qu'en même temps, on a toujours ce chiffre de 9 millions de pauvres, dont 2 millions de travailleurs. Je pense à d'autres nouvelles, comme en 2018, comme la relaxe générale dans l'affaire Wildenstein, qui était une fraude fiscale majeure avec un demi-milliard de fraude, où tout le monde s'en est sorti sans rien, et que pendant ce temps, on avait des faits divers sordides, du genre des caissières virées pour avoir gardé des bons d'achat, ce genre de choses. Et donc, sur le sujet de la justice fiscale, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, notamment le fait que, par exemple, toute société aujourd'hui en France paye 28% d'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, truc qui va baisser, mais bon, ça reste 28%. Et dans les nouvelles, vous lisez qu'Apple paye 0,005% en Irlande. Ça donne envie de sortir dans la rue aussi. Tous les 6 mois, il y a une affaire de fraude fiscale avec des paradis fiscaux. Il y a Dubai Papers, les LuxLeaks, les Football Leaks, que sais-je, les Comex Files. À chaque fois, il ne se passe rien du tout. Il y a une annonce gouvernementale, il y a une annonce de l'Europe. Puis ça décante et à la fin, il n'y a ni poursuite, ni mise sous écrou, ni rien du tout, ni changement de la loi. Là, par exemple, je viens d'apprendre que la suite des Comex Files, la loi pour empêcher ce genre de montage financier avait été complètement détricotée et ne servait plus à rien. D'autres choses qui m'ont donné envie d'aller manifester, c'est un sentiment de mépris, pas à mon égard, parce que moi je ne suis pas concerné personnellement, mais à l'égard de beaucoup de gens dans les classes populaires. Un événement qui m'a marqué, c'est les Whirlpool par exemple, quand une entreprise…
Pendant la campagne présidentielle,
exactement. Donc on a une usine avec des gens qualifiés à l'intérieur, des ouvriers qualifiés, qui ferment pour délocaliser en Pologne, alors que, bon, passons les détails. Et on leur dit, mais c'est pas grave, il y a Amazon qui vient d'ouvrir, donc vous posez votre aliseuse et vous allez transporter des cartons dans l'entrepôt. Et ça, ça en dit long quand même sur le mépris des classes populaires. Et ça donne aussi envie de sortir dans la rue. Et ensuite, très rapidement, la réponse au mouvement, ça a été l'insulte. Vous êtes des homophobes, vous êtes des antisémites, vous êtes des racistes. Et ça aussi, se sentir agrégé à ça, alors qu'on ne voit rien de ça de son côté, et qu'on n'est certainement pas ça, ça donne aussi envie de manifester. Donc pour tout ça, j'y suis allé. Voilà.
Alors, je rappelle, pour revenir à votre procédure, que vous risquez tout de même sur le papier, en théorie, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Est-ce qu'il y a un fondement juridique sérieux à cette espèce de harcèlement judiciaire que vous subissez ?
Alors, je crois pas. J'ai discuté avec des gens qui me disent que non. Moi, avant, comme je suis quelqu'un de précautionneux, j'avais regardé quand même. Donc, je savais que les militaires d'active, ils étaient concernés, ils ne pouvaient pas aller manifester.
En uniforme.
En uniforme ou pas, ils ont un droit de réserve, ce qui est logique quelque part. ils peuvent pas soutenir une cause politique. Je savais qu'un porter des insignes de policier, c'était interdit. Après, j'ai cherché pour un ancien élève d'une école sous tutelle de la Défense. Bon, j'ai rien trouvé. Et effectivement, quand on regarde les textes aujourd'hui, ça n'a pas l'air de s'appliquer beaucoup. Donc il y a un article du Code pénal qui me concerne en particulier. Il faut vraiment que ce soit un uniforme militaire. Et la question de est-ce que l'uniforme de Polytechnique est un uniforme militaire, la réponse est probablement non. Mais ça va être décidé par d'autres gens.
Alors vous êtes sorti de l'IX en 2010, hein, il y a 9 ans pratiquement déjà. Que dit la direction de l'école et quel a été le cheminement de la plainte selon vous ?
Alors que dit la direction de l'école ? Rien, ni à moi ni à personne, ce que je trouve assez surprenant. Le cheminement de la plainte, je n'en ai aucune idée. Je sais qu'elle a été déposée le 5 décembre, donc 4 jours après, 4 jours après les faits. Mais je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Ce dont je suis certain, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que l'école porte plainte, étant donné qu'elle déteste voir quoi que ce soit sortir de son propre périmètre et faire des vagues, exactement.
Alors, j'ai appris à la faveur de votre affaire que le nouveau président de l'école polytechnique, récemment nommé par Emmanuel Macron, n'était pas issu de l'armée française ou des grands corps de l'État, mais d'un cabinet de conseil anglo-saxon. Qu'est-ce que ça inspire à l'ancien élève de l'IX que vous êtes ?
Ça m'inspire des félicitations à son égard. C'est curieux. Alors, déjà, la fonction de directeur, elle est assez nouvelle, je crois. Avant, il y avait un directeur général qui était un militaire. Ils ont scindé tout ça il y a quelques années. Moi, ça ne m'inspire pas beaucoup de bien. Je préférerais quelqu'un qui a une légitimité scientifique, donc un chercheur ou quelqu'un qui est un ancien militaire. Aujourd'hui, on n'a pas exactement ça. Et on le voit dans les projets qui sont menés aujourd'hui. Bon, je ne suis pas là pour les critiquer. Je ne suis peut-être pas légitime pour les critiquer, mais se rapprocher d'HEC pour faire du management, ça en dit peut-être un petit peu long sur la nouvelle politique de l'école.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le rapport des élites macronistes avec 12 paires de guillemets aux classes populaires, celles-ci semblant avoir fait sécession réellement avec le peuple et le comprendre de plus en plus mal. Qu'est-ce que vous sentez chez vos anciens condisciples des grandes écoles ? Est-ce qu'il y avait d'autres gens autour de vous issus de votre école, par exemple de Polytechnique, oui, qui manifestaient ?
Alors, pas en uniforme, mais il y en avait, oui. Je l'ai su après. Alors déjà, il y a des gens qui sont engagés dans la pluralité des idées parmi les anciens et parmi les élèves. Donc, je pense à deux sortes d'associations. Il y a les infiltrés, qui sont une centaine, peut-être un peu plus. Donc ça, c'est des gens qui sont partis de l'école et qui ont jusqu'à 45 ans, qui sont donc cadres dans le privé ou aux fonctionnaires, ou tout ça, qui agissent anonymement. Ils n'ont pas forcément envie de dévoiler leur identité par rapport à leur action politique. Ensuite, il y a la Sphinx, qui est une association qui promeut la diversité sociale au sein de l'école, ce genre de choses. Et sur place, ensuite, suite à la communication de mon texte, plein de gens m'ont contacté, notamment des gens qui allaient manifester. Donc j'ai rencontré un ancien qui avait fait 14 actes sur 15, c'était assez surprenant, qui est 4 dans le privé aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit une majorité, mais les gens sont assez nombreux. Je ne pense pas qu'ils sachent qu'ils sont plusieurs. Mais enfin, souvent, on est dans son coin quand même. C'était un petit peu aussi le but de mon acte, c'était de les faire sortir du bois et de les faire se réunir et discuter entre eux. Alors il se trouve qu'après, j'ai appris l'existence de plein d'associations qui existaient, mais moi, je ne pensais pas, je pensais être tout seul dans mon coin.
Alors vous avez été touché par le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez voulu envoyer un signal en vous présentant à l'Arc de Triomphe, en faisant plusieurs fois le tour, d'après ce que j'ai compris. Oui. Quel était exactement le sens de votre geste à vos yeux ?
Soutenir, déjà. Enfin, fondamentalement, soutenir les gens qui étaient sur place. Ça, c'était le sens de ma présence. Le sens de ma présence en uniforme, c'était montrer que parmi ce qui est considéré comme les élites, il n'y a pas que des gens qui les méprisent. Il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec eux. Et ça a peut-être allé un peu loin, mais c'était un peu faire un acte de réconciliation. Dire, regardez, des gens sont avec vous. Si je suis là, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est qu'il y a beaucoup d'autres gens avec moi. Et regardez, avançons ensemble. Enfin, il n'y a qu'une seule France. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le peuple versus les élites.
Vous avez parlé ce jour-là avec des manifestants ?
Oui.
Vous avez eu justement des témoignages de reconnaissance ?
Oui. Bah déjà, avant d'aller sur les champs, parce que je ne savais pas trop sur quoi j'allais tomber, j'ai parlé à des gens. Et sur place, les réactions étaient unanimes. C'est-à-dire que c'était merci de venir. Pourquoi vous êtes tout seul? Pourquoi est-ce que les corps constitués ne sont pas avec nous? Que font les polytechniciens? Que font les normaliens? Que font les intellectuels? C'était, à l'époque, c'était quand même très partagé, la perception du mouvement. Il n'y avait pas grand monde qui soutenait ouvertement. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop où ça en est. Mais...
Quel est le sens profond, au bout de 19 semaines désormais, du mouvement? Et qu'est-ce qui vous a à ce point touché en lui?
Après 19 semaines, je pense que c'est toujours la même chose. C'est toujours demander de la justice et de la démocratie. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est la durée. Ça fait quand même 19 semaines. Quoi qu'on dise, les gens se fatiguent. Quoi qu'on dise, des événements arrivent. Des événements sont repris, plus ou moins bien, souvent très mal. Moi, ce que j'admire après 19 semaines, c'est la résilience du mouvement, c'est que des gens viennent toujours manifester, malgré violence, malgré humiliation, malgré insultes. Ce que j'admire, c'est des gens comme Jérôme Rodriguez qui se font éborgner et qui continuent d'aller manifester, qui continuent de venir sur des plateaux, qui continuent d'être non-violents et qui continuent de demander ce qu'ils demandaient depuis le début, la justice et la démocratie.
Alors, ce mouvement populaire a déstabilisé le pouvoir. Qui a eu peur? Écriviez-vous dans votre texte d'explication publié sur Facebook, auquel je faisais allusion tout à l'heure, pensez-vous que la peur règne toujours à l'Élysée à l'heure où on se parle?
J'étais pas là samedi, mais j'ai vu des images. C'était plus des protections policières, c'était des cohortes de CRS et des barrières métalliques. Oui, je pense qu'ils sont pas très à l'aise. Je pense qu'ils ont eu très très peur au début, les semaines 2, semaine 3, semaine 4. On nous a parlé d'un hélicoptère dans l'Élysée. Je pense qu'ils ont vraiment eu très peur.
Prêt à exfiltrer le président de la République, paraît-il.
Oui, paraît-il. J'y étais pas, mais aujourd'hui, oui, je pense qu'ils sont toujours pas très à l'aise.
L'armée était dans la rue samedi dernier, même si c'était l'opération Sentinelle et qu'elle était censée être mobilisée sur ce qu'on appelle des points fixes et non au contact direct avec les manifestants. Qu'est-ce que ça dit du moment que nous vivons à vos yeux?
Ouf. Ça en dit long, ça en dit beaucoup. Pour moi, ils ont pris un risque gigantesque et j'espère qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Étant ancien de ligue, j'ai fait quelques mois dans l'armée. Pas beaucoup, hein, j'étais pas dans les forces spéciales ni rien du tout. Mais j'espère qu'ils mesurent pas la puissance des armes dont disposent les militaires. Un FAMAS, à 200 mètres, avec très peu d'entraînement, vous tuez quelqu'un. Et la balle traverse la personne. Imaginez, enfin c'était très facile d'imaginer qu'à un moment, un groupement de gens allait faire une provocation quelconque, qu'un groupe de militaires devant un bâtiment a priori inoffensif allait se prendre un pavé. Quelle était la réaction? Si la réaction, c'était un tir, c'est pas possible. Ce que ça dit, c'est qu'ils ont pris un risque fou, mais complètement fou, en termes de nombre de victimes et en termes de lien entre l'armée et la nation. Le lien armée-nation, c'est quelque chose qui met des années, des dizaines d'années à se faire, et ça se défait très vite. Et si l'armée est respectée aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle ne fait pas ce genre de choses. C'est qu'elle fait sa mission de militaire, elle combat l'ennemi, elle combat personne d'autre. Si c'était passé la moindre chose, Dieu sait où on en serait aujourd'hui. Moi, ce que je l'interprète comme la solution de la dernière chance dans l'intimidation la plus complète. Et moi-même, je l'ai ressenti. Je ne sais pas si je serais allé manifester samedi si j'avais été à Paris. Parce que ça fait peur. Et je pense que le but, c'était de faire peur. Et si j'avais été lieutenant ou sous-officier en garde d'un bâtiment, j'aurais dit à mes gars, vous mettez tout le matériel, vous faites peur un maximum, vous sortez le regard les plus méchants. Mais si jamais vous voyez approcher des gens, vous partez. Quoi. Parce que notre but, ça va être de faire peur et certainement pas de faire quoi que ce soit.
Vous pensez justement que c'est ce lien aux forces de l'ordre, ce lien à la nation, ce lien à l'armée qui est en train d'être abîmé par le gouvernement actuel?
Le lien aux forces de l'ordre, malheureusement, on le voit dégradé. Oui. Enfin, c'est de leur côté comme du côté des manifestants. Je pense que ça doit être horrible de faire 19 semaines du côté des forces de l'ordre, en week-end, pas voir sa famille, faire des horaires jusqu'à 2h du matin, se retrouver à tirer, à lancer des grenades partout, on ne sait pas sur qui, on ne sait pas sur quoi, se retrouver mal vu alors qu'ils sont utilisés. Et de l'autre côté, voir des policiers qui éborgnent des gens et qui lancent des grenades au milieu de la foule. oui, ça esquinte le lien, je pense. C'est très mauvais. Je sais pas comment on a pu en arriver là.
Vous voyez comment la suite du mouvement ?
Voilà, je suis pas qualifié pour répondre. Je continue de soutenir leurs revendications. Ce que je vois, c'est que ce qu'on a vu la semaine dernière, la militarisation, le nouveau préfet avec ses consignes, la citation à Clémenceau, comment ils vont pouvoir aller plus loin dans la répression ? Je vois plus d'options et je pense qu'ils n'en voient plus non plus. Donc, soit le mouvement meurt complètement et ils sont tranquilles, soit ça continue et ils n'auront plus d'autres options pour répondre, hein, parce que là, dans l'escalade sécuritaire, c'est fini, là, on a atteint le sommet. Quoi.
Comment pensez-vous que vous, polytechnicien, issu de la droite lorsque vous étiez très jeune, comme vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez réussi à maintenir ce lien avec les revendications du peuple ?
Le lien, je pense que je l'ai jamais perdu complètement. Mon grand-père était ouvrier, donc quand même un lien avec les travailleurs qui est assez simple. Les revendications du peuple, pour moi, c'est beaucoup dire. Le lien que j'ai jamais perdu, c'est liberté, égalité, fraternité, tout simplement. Si on le voit sur les mairies, c'est pas pour que ça décore. C'est le fondement de la République française, quelque part. L'autre fondement de la République française, c'est la Révolution française. Et on a tendance à oublier ce que c'était, quand même, la Révolution française. Ça a un petit peu débordé, ça a bizarrement fini. Et puis finalement, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire du très bon. Pour essayer de donner un peu de détails, je vais donner un exemple. J'ai fait un stage chez Michelin il y a longtemps, quand j'étais encore étudiant. Les ingénieurs-chercheurs de Michelin, moi j'étais au centre de recherche et développement, font, alors à l'époque, je sais plus, c'était je crois tous les ans, une semaine en usine, c'était peut-être un mois tous les quelques années, peu importe. Ils faisaient un stage régulier en usine au 3-8, pas faire grand-chose parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais j'imagine à virer les copeaux, à amener les matériaux, à nettoyer les machines, etc. Si Michelin faisait ça à l'époque en tout cas, c'est pas pour rien. C'est parce que faut garder à l'esprit qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va faire le vrai boulot. Quand on encadre, quand on a tendance à penser qu'on fait autre chose que coordonner. Mais en fait, on fait que coordonner des gens qui font vraiment les choses. Voilà. Et à la fin, quand il y a une voiture qui sort d'une ligne d'assemblage, l'ingénieur l'a peut-être conçue. Le commercial l'a peut-être vendu, mais c'est un ouvrier qui l'a fabriqué. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de garder. Donc moi, dans mon boulot d'informatique, par exemple, très rapidement, les gens évoluent normalement vers le management, etc. Moi, je fais toujours du code. Quand j'étais en stage militaire, par exemple, en première année de Polytechnique, on fait un stage militaire qui dure 6 ou 8 mois. Donc on est bombardé officier quelque part dans une unité. On est aspirant, on n'a aucune légitimité, on a un mois de stage militaire derrière soi et on se retrouve à devoir encadrer des gens. Moi, j'étais très très mal à l'aise avec ça, comme la plupart des gens. Donc ma solution pour trouver une légitimité, moi j'étais sur un bateau à réparer des moteurs. Enfin, je m'occupais de la partie machinerie. Donc ça a été mettre un bleu, descendre voir les machines, voir avec un matelot qu'est-ce que vous faites, très bien, lui donner un coup de main, nettoyer les moteurs, participer aux opérations, faire un peu soi-même pour voir ce que font les gens. Et je pense, qu'on ne peut pas garder ce genre de lien sans faire un peu soi-même, sans voir au moins soi-même. C'est peut-être ce qui manque à pas mal de gens.
Vous évoquiez à l'instant le souvenir de la Révolution française. Vous avez rappelé au moment de la plainte déposée contre vous que dans l'histoire de l'école polytechnique, des membres fondateurs étaient issus du comité de salut public.
Oui, c'est curieux. Oui, Lazare Carnot, c'est une personnalité quand même. C'est un ancien officier du génie, qui royaliste, donc un officier de l'armée royale, qui a rejoint la Révolution très vite, quand même sacrée prise de risque, et qui s'est retrouvé ensuite à organiser les armées de la Révolution, qui s'est retrouvé au comité de salut public, et qui a été surnommé, qu'on s'appelle, l'organisateur de la victoire. C'est pas rien. Monge, qui était un des grands scientifiques de l'époque, était copain avec Robespierre. Voilà, c'est...
C'est une école qui est connue de l'histoire.
C'est une école qui est fondée par des gens très révolutionnaires, quand même. Donc, l'école est issue de la Révolution. Aujourd'hui, ça y ressemble pas beaucoup, mais, mais tout le 19e a été émaillé de faits comme ça. Donc, les Trois Glorieuses, 1848, il y a eu les élèves qui sont sortis dans la rue pour soutenir les insurgés. Voilà. Et puis, plus tard, il y a eu des résistants, il y a eu 900 morts en 14. Je suis pas là-dedans, hein, mais. Bon, c'est quand même une école qui a donné pour la patrie et qui a été fondée par la Révolution.
Et donc vous essayez un petit peu de faire vivre le prestige
aujourd'hui. Donc de rappeler ce
ouais.
souvenir.
Mais... Oui. Vous manifesterez dans les semaines qui viennent ?
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Régis Portalès. On vous souhaite de la chance et du courage face à la procédure qui s'annonce. Je vous rappelle que le média vit de vos dons, de vos subventions. Aidez-nous à remporter la bataille de l'information. Je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien libre.